Non, que sur ce système de grands chapitres, j'ai réussi à faire 7 chapitres sur 10 séances. Donc, on a 10 séances, 7 chapitres, je veux dire que chaque fois ça fait un peu plus d'une heure. C'est à peu près c'est un peu plus d'une heure et quart, une heure et demie. Et donc, effectivement, le premier semestre, on était allé du Çatalhöyük en Turquie là jusqu'au Beatus de Saint-Sever. Deuxième semestre, là, qui vient de se terminer, on a commencé avec les vitraux de Chartres et on a terminé avec Carpaccio, Saint-Augustin. Et aujourd'hui, normalement, commence un semestre, et donc en mai, je crois, enfin, on devrait avoir donc, je vous rappelle, Michel-Ange, donc, qui devrait commencer aujourd'hui, ce qu'on appelle les lunettes de la chapelle Sixtine. Ensuite, une artiste, Sophonisba Anguissola, dont je vous ai déjà un peu parlé. Andrea Palladio, un architecte, et le palladianisme. Alors peut-être que j'inverserai, peut-être que je ferai Palladio avant Anguissola. Tout ça, c'est à peu près contemporain, c'est pas très grave. Ensuite, Bruegel et la tour de Babel. Une autre artiste du clair-obscur et aussi une artiste femme remarquable, c'est Artemisia Gentileschi, qui est très intéressante. Ensuite, le sujet, c'est un thème iconographique de Apollon et Marsyas, qui est traité par plusieurs artistes, notamment Titien, et puis zut, espagnol du XVIIe siècle. Et puis, j'aimerais terminer avec les sculptures, encore d'une toujours. Du Berlin, l'enlèvement de Perséphone, hein, qui est à la Villa Borghese, à Rome. Donc on est essentiellement dans le XVIIe siècle. Et alors, comme c'est un siècle riche, 16e, 17e, enfin non, 16e, 17e. On est vraiment les deux. Alors sans doute que je continuerai avec le XVIIe siècle parce que je crois que je ne passerai pas. Je pourrais pas échapper à Velázquez. Donc il faudra qu'on fasse du Velázquez quand même. Donc je n'ai pas encore vu la suite, mais voilà. Alors, en gros, le système, je pense que je le continue. Alors, vous avez vu, hein, je déborde un petit peu, mais alors il y a des vides aussi dans un programme comme ça, il y a des trous, mais bon, pas tout remplir. Hein. En plus, plus on cherche, plus on trouve. J'ai encore trouvé des trucs incroyables. Il faudrait presque retourner en arrière sur les statues et sur la Grèce, parce que en cherchant des documents, j'ai trouvé des choses intéressantes. Et même parce que j'attends un petit peu là, vous avez parlé des figures féminines en Grèce, notamment la façon dont elles étaient réduites. Et c'est vrai que j'avais pas parlé des Amazones. Or, c'était des trucs, j'ai trouvé là des documents récents, des mosaïques. C'est toujours en Turquie. Ça aussi, c'est quand même assez hallucinant là. La frontière kurde-syrienne, hein, c'est là où on découvre encore récemment, hein, en 2007, des mosaïques romaines, enfin gréco-romaines, turques, quoi. Qui sont sublimes des portraits d'Amazones comme ça, qui sont absolument magnifiques. Hein, les Amazones étant beaucoup plus qu'un mythe, hein, c'est une réalité certaine, et beaucoup moins caricaturale que ce qu'en ont fait les Grecs, justement, qui soumettent les Amazones à chaque fois. Et c'est assez emblématique aussi qu'à chaque fois, ça soit dans cette région du monde, qui est, hélas, encore là, les infos de ce matin parlaient de l'agression. Contre les Kurdes. Et juste une chose, c'est en Kurdistan aussi qu'on a les femmes combattantes les plus engagées contre l'obscurantisme religieux, etc. Donc il y a comme des souterrains pas inintéressants. Donc voilà, un jour à recommencer à zéro sur ces choses-là. Alors, j'étais arrivé là. On avait vu Saint-Augustin, Saint-Jérôme, Vinci, Vitruve, l'école d'Athènes. Je crois que j'avais fini en vous présentant un petit peu les œuvres de Raphaël au Vatican. Je l'avais fait ou pas? Oui. Oui. Est-ce que, par contre, je vous avais montré celle-ci de Pérugin? Oui. Mais on va la reprendre parce qu'il se trouve qu'elle est dans la chapelle Sixtine. Et donc, ça nous servira de lien tout à l'heure avec le cours précédent. Excusez-moi, mais depuis la dernière fois, j'ai un peu perdu mes repères. Et par contre, je crois que je ne vous avais pas présenté le studiolo précisément. Si? Non, voilà. Parce que rappelez-vous, le sujet, je vais éteindre, hein, c'était Saint-Augustin dans son cabinet de travail. Et donc, il y avait derrière ça l'idée de l'étude, il y avait l'idée de la perspective. Et de la composition centrale et puis la composition décentrée s'appuyant sur le nombre d'or. Et d'ailleurs, Abdelatif nous avait montré les documents sur le nombre d'or. Mais il y a aussi la dimension scientifique et de recherche, aussi l'idée de d'assumer complètement. Je vais éteindre maintenant.
Attends, c'est au bout là-bas qu'il faut éteindre.
C'est pas ça ?
Non, c'est une autre.
Voilà. Ah, une idée intéressante et qui est caractéristique de la Renaissance, c'est la place, vous avez vu, faite à la raison. On a vu, par exemple, l'école d'Athènes qui sépare la raison de la foi de manière très très claire, deux vérités, l'une rationnelle, l'une révélée. On avait ça aussi avec, justement, la réhabilitation de Averroès, le philosophe musulman, cette idée que, justement, si les humains ont une raison, bah, il faut qu'ils s'en servent pour comprendre le monde dans lequel ils sont, mais ça n'a pas forcément un rapport avec la quête du divin. Alors, ça, c'est important, parce que des gens comme saint Thomas disent « la raison doit nous servir à nous rapprocher de Dieu », et d'autres vont dire, pour simplifier, « non, la raison, elle a son autonomie », et c'est un peu le début, justement, des sciences autonomes. Ça va avoir une portée fondamentale jusque Descartes, Spinoza, ensuite, etc., sur l'idée que on peut explorer le monde, etc. Alors, c'est peut-être un monde créé par Dieu, mais en tout cas, il y a une autonomie de la pensée et de la méthode, justement, un peu rigoureuse et scientifique. Alors, il y a aussi des choses sur lesquelles qu'il faut relativiser, c'est toute l'Église n'est pas opposée aux sciences. Il y a des religieux bornés. On sait qu'on verra plus tard, mais là, on sait qu'en 1600, un scientifique astronome sera brûlé à Rome, Giordano Bruno. On verra ça plus tard. Donc, si vous voulez, on connaît le procès de Galilée plus tard. Donc, il y a des enjeux, mais il y a aussi des chercheurs religieux. Par exemple, ce moine, justement, Pacioli, celui qui a écrit la Divine Proportion, est ici représenté par un peintre pas très connu, que je ne connais pas d'autres œuvres, Barbari, mais on le voit effectivement au milieu de ces instruments de science et de mathématiques et de géométrie. Et alors, le portrait ici a été rajouté par la suite, et on voit aussi que la composition est elle aussi construite de manière très rigoureuse et scientifique. Rappelez-vous qu'il y a un enjeu pour les artistes, notamment jusqu'à Raphaël, Carpaccio, Vinci, c'est de montrer qu'ils sont capables de maîtriser les sciences. Ils sont capables de maîtriser les sciences, et donc ça fait un art, c'est pas juste un art de décoration ni de séduction, c'est pas un art juste de l'apparence, c'est un art aussi qui se construit, qui se structure. Juste une chose pour vous montrer aussi, là c'est vrai que parfois ça peut sembler anecdotique, mais le point de fuite ici est très discret, puisque vous voyez les obliques de la tablette ici. C'est une tablette avec Euclide ici. Et on voit que les obliques et les lignes de fuite qui sont présentes sur le document, ici sur la peinture, nous rejoignent quand même donc en un point de fuite qui est au sommet de la tête de Pacioli, qui forme un triangle équilatéral. C'est-à-dire qu'on a vraiment toujours cette idée aussi de faire rentrer la perspective, qui est une expérience en espace tridimensionnel, dans un plan, dans une surface plane. C'est aussi la conciliation entre une géométrie plane, géométrie dans l'espace. C'est vraiment aussi quelque chose qui, de ce point de vue-là, permet de donner du sens aussi à la représentation du monde. Parce que sinon, si la perspective n'était que cette anecdote de représenter le monde en profondeur, ça serait un truc de décorateur ou un truc technique. Mais il faut dépasser le simple technique de représentation, la simple expérience optique, pour la faire rentrer dans un principe théorique supérieur, donc le cercle, le triangle et le carré, toutes ces formes géométriques pures que l'on voit ici. Alors ici, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le point de fuite est au-dessus de la tête du moine, comme si tout d'un coup le point de fuite et le sommier, ça rayonnait en fait au-dessus de lui. Surtout si le point de fuite, on l'assimile, comme je vous l'ai montré, on pouvait l'assimiler à Jésus, Dieu, etc. Donc, voilà. Alors cette idée de l'étude, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens. Je vous ai présenté Frédéric de Montefeltre l'autre fois. Frédéric de Montefeltre peint par, notamment, Piero della Francesca. Il y a d'autres chaises là, si vous voulez.
Merci, comme ça, moi je
vois. D'accord. Donc Frédéric de Montefeltre, qui est ici représenté, comme il l'était souvent, en armes et à l'étude. Là aussi, cette idée de conciliation, elle est typique de la Renaissance. Il y a beaucoup de choses à concilier, la raison et la foi, les études donc, et la religion, les expériences physiques, optiques ou de perception et la vision symbolique du monde. Et puis vous avez aussi l'action et la contemplation. C'est un grand classique que Michel-Ange reprendra d'ailleurs chez les Médicis, avec Julien et Laurent de Médicis, il y en a un qui est contemplatif, l'autre qui est actif, cette idée de contempler, d'être à la fois actif et à la fois contemplatif. Science sans conscience, etc., toutes ces choses-là aussi, c'est cette idée de être à la fois dans le monde, mais être capable aussi de s'en écarter. Alors Frédéric de Montefeltre, qui est ici toujours représenté de profil, alors, je ne savais pas, mais en fait c'est parce qu'il avait été blessé à l'œil droit et il avait une partie du visage qui était abîmée, donc il voulait toujours être représenté sur son profil gauche, et c'est pour ça qu'il a aussi un problème au niveau de l'arête du nez. Mais il est représenté ici avec une de ses filles, je pense, hein, avec ici une tiare, on dirait, religieuse, et en pleine lecture, mais avec l'épée. Alors, ce modèle, on le retrouve assez souvent, hein, c'est un vieux modèle, cette idée du prince éclairé, ou qui est à la fois capable d'agir et de réfléchir, qui est à la fois ami des arts et de la force, comme David, hein, David qui est à la fois celui qui a l'épée et la fronde, mais aussi qui joue de la lyre, etc. Donc David, le roi David des Hébreux, est donc aussi un des modèles que l'on va retrouver ici. Donc, à la Renaissance, certains princes, certains chefs locaux se voient très bien dans cette espèce de rôle, être à la fois des contentierés, des chefs mafieux, si vous voulez, et puis, parce qu'ils sont maîtres de leur territoire, et en même temps des gens très éclairés. Alors, le cas de Montefeltre, c'est vrai, c'est lui qui a fait construire ce bâtiment, qui est le petit, alors on appelle ça le studiolo, c'est-à-dire le cabinet de. Alors, pas de curiosité, le cabinet de lecture, hein, studiolo, dans lequel il fait construire une bibliothèque. Alors, c'est à Urbino. Urbino, dont il est le. Urbino, c'est en Toscane encore. Je crois que c'est à l'est de la Toscane. On est vraiment pas loin de... Oh, je ne voudrais pas dire de bêtises. Ouais, on est vraiment dans la partie la plus orientale de la Toscane. Et rappelez-vous que dans le studio d'Urbino, je vous ai montré les chefs-d'œuvre de marqueterie. Et il fait copier, parce qu'on est encore au XVe siècle, hein, donc avec Frédéric de Montefeltre à ses débuts, c'est lui qui a un peu lancé cette mode, on va dire, pas cette mode, mais cet art-là. Il fait copier des manuscrits, il recrute une bande de copieurs, hein, qui ne sont pas des moines, pour copier des manuscrits assez rapidement. C'est-à-dire assez rapidement, il va y avoir des dizaines et des dizaines de manuscrits pour pouvoir les mettre dans sa bibliothèque. Ensuite, il y aura l'imprimerie très rapidement ensuite qui va remplir sa bibliothèque. Mais vous avez donc ici un peu une synthèse des arts, de la technique, de la décoration, des mathématiques. Et là, on retrouve les chefs-d'œuvre de marqueterie qu'on voit sur les portes des placards de son cabinet d'études. C'est le cabinet d'études. Et donc voilà un des exemples. Et ce cabinet d'études, c'est un petit chef-d'œuvre de la Renaissance. Le voilà à peu près reconstitué. Je vous ai dit que ça, c'est une reconstitution fausse, enfin vraie fausse, parce que la moitié de ces peintures, en fait, sont au Louvre. Hein, et dans ces peintures, c'est là où je vous ai dit, il représente à la fois des philosophes grecs et romains, et à la fois ce qu'on appelle des pères ou des fondateurs de l'Église ou de la tradition religieuse. Donc on va retrouver Moïse, on va retrouver Thomas d'Aquin, on va retrouver Saint Jérôme, on va retrouver d'autres princes, etc. Mais on va retrouver Platon, Aristote, Ptolémée, etc., etc. Donc vous avez cette idée, là encore, de conciliation. Et puis, quelque chose qui est important, c'est que ces personnages ne sont pas juste des silhouettes, c'est des vrais individus, c'est des vraies personnes. Donc il y a une incarnation, hein, aussi de la pensée, qui est quelque chose qui est... on est aussi dans l'art du portrait. Et ça, c'est important aussi dans l'irruption, l'affirmation de l'individu dans l'histoire. L'individu, la personne, commence à pouvoir agir sur le monde, avoir ses propres traits, sa propre influence, sa connaissance et sa perception du monde. Vous avez donc aussi une individualisation, c'est une des caractéristiques de la Renaissance, c'est l'individualisation jusque dans le trait. Hein. Bon, voilà des détails. Et là encore, voilà d'autres points de vue, hein, sur ces philosophes. Alors là, il n'y a que des hommes. Hein. Là, on est quand même à la Renaissance, on est dans une masculinisation un peu caricaturale par certains côtés. Juste une chose, j'ai réalisé que la Renaissance s'appuie essentiellement sur les cultures gréco-romaines et qui sont particulièrement machistes et sexistes, puisque c'est dans la culture gréco-romaine qu'une bonne partie des figures féminines sont écartées progressivement. Donc, la Renaissance a un côté positif, évidemment, au niveau de la pensée, au niveau des sciences, au niveau de l'art, mais sur certains domaines, c'est quelque chose aussi qui est très inégalitaire. Inégalitaire, par exemple, y compris même au niveau de l'art. Nous, on apprécie les œuvres de la Renaissance, mais si vous voulez, c'est des œuvres qui quittent les centres-villes, qui ne sont plus dans les cathédrales. Les cathédrales n'existent plus. Comme vous voulez, il n'y a plus de cathédrales qui étaient un art populaire et savant. On l'a vu avec Chartres. Et à la Renaissance, ce sont des palais, ce sont des châteaux, ce sont des domaines privés qui sont les propriétés des princes. Hein, donc vous avez à la fois une inégalité sociale et sexiste aussi, hein, qui est assez claire. Alors, il y a des côtés positifs, évidemment, mais c'est assez clair qu'on a ici une valorisation. Alors, la vertu étant essentiellement masculine, mais virus, virilité, etc., c'est aussi une caricature de qualité dite masculine. Donc, à ce propos, il y a eu un livre qui est sorti en décembre, c'est Les mythes de la virilité de Olivia Gazalet, que j'ai entendu à la radio, puis j'ai acheté le bouquin. Il y a des côtés très intéressants, alors, des côtés discutables, mais il y a des côtés très intéressants sur la construction des mythes, justement, de la virilité. Et elle aborde beaucoup d'œuvres, y compris qu'on a vues ici. Alors voilà, mais ça montre, ceci dit, si on oublie les défauts, si on voit d'un côté universel, le rapport à l'étude, le rapport au travail, le rapport à la science, le rapport aussi au livre, à la transmission, à une certaine autonomie. Ça, c'est quelqu'un aussi qui n'est pas le roi, en fait, c'est un chef, qui n'est pas un prince de l'Église, et qui en même temps prétend avoir accès à sa propre culture, sa propre philosophie, son propre réseau intellectuel. Donc si vous voulez, c'est assez étonnant aussi de voir quelqu'un qui construit un monde intellectuel de façon très claire. Alors, le Studio Rodolubino, donc voilà ici. Alors voilà quelques-uns des philosophes que moi je ne connais pas. C'est Aristote ici que je suis. C'est l'artiste qui s'appelle Juste de Gand. Donc d'ailleurs, là aussi d'ailleurs, dans ce studio-là, vous avez des artistes qui viennent, il y a un Espagnol, vous avez des Italiens, vous avez des Flamands. Donc ça aussi, chez les artistes qui ont fait cette galerie de portraits, vous avez des origines assez variées. Mais vous voyez cette idée d'incarner la pensée par des corps. Là, vous avez Dante Alighieri, la poésie. Dante, le grand poète médiéval italien, Dante Alighieri, ou Antigheri, ici qui est marqué, et qui est ici représenté avec sa couronne de laurier. Donc, la poésie faisant partie aussi de la philosophie. Hein. Là, il s'agit, je pense, de Virgile. Je ne sais pas de qui il s'agit. Alors, je ne vais pas vous les montrer tous, parce que, par contre, ce n'est pas évident. Ben. Là, il s'agit de Ptolémée. Hein, avec la représentation du monde.
Ils ont toujours une main en l'air.
Oui, ben alors la main en l'air, c'est, vous savez, c'est aussi dans la discussion et la scolastique, par exemple, très souvent, c'est une manière de présenter la parole. Plus tard, Marc Fumaroli parlera de l'éloquence muette. C'est presque toujours, hein, Platon et Aristote, chez Léonard aussi, Platon montrait le ciel, Aristote la main. C'est en peinture, pour représenter la parole, souvent ça se fait par des gestes. Et ça, c'est même au Moyen-Âge, je ne sais pas si vous vous souvenez des manuscrits que j'avais montrés, il y a très souvent, même les diagnostics des médecins, il y avait tout un jeu de gestes. Et puis, ils sont italiens, quand même. Donc, il y a quelque chose ici. Bon, alors là, c'est Saint Jérôme, traducteur de la Bible, qu'on a déjà vu, mais là, il n'est pas tout seul, il est au milieu. Là, Solon, alors, je ne sais pas qui c'est, ce penseur. Là, vous avez Pietro d'Abano, que je ne connais pas aussi, un philosophe, mais je ne connais pas sa philosophie. Ça, c'est Saint Thomas, qu'on a déjà vu avec son triomphe, etc. Là, c'est Platon. Alors, c'est marrant comme représentation de Platon aussi, avec les textes, etc. Mais qui, eux aussi, semble ce qui est marrant, ils sont représentés comme s'ils étaient eux aussi dans un cabinet d'études, hein, assis avec des livres, etc. Alors, c'est important aussi de montrer que la pensée n'est pas pure abstraction. Le fait qu'elle s'incarne, c'est une façon aussi de montrer qu'elle est dans un corps humain, et ce n'est pas quelque chose qui flotte comme ça en l'air et qui viendrait purement d'une instance supérieure. Donc voilà. Alors les documents ne sont pas toujours très bons. Hein. Donc voilà. Vitorino, je ne sais pas qui c'est. Et encore Saint Thomas. Donc voilà, ça c'était pour conclure tout ce qu'on avait vu autour de Saint Augustin et de ce fameux Voilà, dans son fameux cabinet de travail. Donc, pour rappel, c'était ici. Voilà. Donc, cette idée de l'étude, du livre, etc., et rapport à la foi. Et rappelez-vous, donc, cette idée de centralité, centre géométrique et centre perspective, avec l'idée du nombre d'or, etc. Alors, maintenant, je vais changer. On va arriver à une rupture à la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle. Un personnage qui est plus que majeur dans l'histoire de l'art, c'est le grand Michel-Ange Buonarroti. Donc, Michel-Ange Buonarroti, Michel-Ange, le Michel-Ange. Et ce que je voulais vous montrer, c'était justement un changement de modèle, même par rapport à Raphaël. Raphaël, vous avez vu l'école d'Athènes, avec une structure, la raison, la foi, la géométrie, la perspective, la philosophie, un ordre très très clair. Il faut savoir que quand Raphaël peint l'école d'Athènes, au Vatican, on est vers 1506 ou 7, Raphaël, il a quel âge? Il a 25 ans, rappelez-vous, à peine. Hein, donc, oui, c'est un prodige. Et exactement à la même période, Michel-Ange est en train de s'est vu confier le plafond, la voûte de la chapelle Sixtine. Hein, donc on est vraiment en même temps. Mais ce qui est notable, c'est que son contemporain, donc Léonard de Vinci, fait une sorte de scientifique un peu mystique, Raphaël, un artiste très classique, en harmonisant la raison, la foi, il n'y a pas de drame, on est dans une sérénité, une renaissance qui culmine, et vous avez Michel-Ange qui introduit déjà des éléments bien particuliers dans toutes ses œuvres. Alors, Michel-Ange, c'est un monde. Je vais d'abord vous présenter justement quelque chose qu'on connaît peu dans l'œuvre de Michel-Ange, parce que c'est sur les côtés de la chapelle Sixtine. Alors, on verra tout à l'heure la grande voûte, et c'est quelque chose qu'en général on ne voit pas. Moi, j'étais allé plusieurs fois, je n'avais jamais remarqué ça. C'est presque. Alors, j'avais des livres sur la chapelle Sixtine. En général, je ne m'attardais pas, ou je ne sais pas pourquoi, je zappais un peu là-dessus. Et même. Voilà, parfois on s'attarde pas. Et pour avoir. Et je suis tombé ensuite, en voulant chercher des documents, j'ai eu un mal de chien trouvé même sur Internet, des reproductions de bonne qualité. Je suis tombé presque par hasard en fouillant, en cherchant sur un site hongrois. Non, j'ai rien contre la Hongrie, sauf un des derniers présidents. Mais sinon, si vous voulez, c'est des œuvres qui elles-mêmes ne sont pas tellement reproduites, pas tellement connues. Et elles sont très intéressantes. Et je vais essayer de vous dire pourquoi elles sont peut-être particulièrement intéressantes dans l'œuvre de Michel-Ange et de la Renaissance. Alors on est à peu près vers 1507-8, etc. Les dates ne sont pas très précises, parce que comme Michel-Ange a travaillé seul pendant plusieurs années dans la chapelle Sixtine, dans un premier temps, puis ensuite il fera le jument dernier presque 30 ans plus tard. Donc voilà, alors ça, c'est une série, ce qu'on appelle les lunettes, hein, c'est une série d'arcs comme ça, qui sont tout en hauteur. Alors pourquoi on ne les voit pas? Je suis bête, attendez, je vais vous présenter d'abord en fait la voûte, parce que sinon on ne comprend pas très bien. Le truc le plus simple, c'est effectivement de voir le bâtiment. Alors voilà. Vous voyez, la plupart du temps, on regarde le plafond, mais on ne regarde pas trop, parce que d'abord, c'est sur les côtés, au-dessus des fenêtres. Hein, et puis, souvent, on regarde le plafond, et elles ne sont pas tellement visibles, y compris parce qu'il y a une corniche, et y compris une galerie ici. C'est que quand vous êtes en bas, d'abord, il y a plein de monde, et c'est difficile, il faut presque se mettre le long de ce mur à droite pour voir celles qui sont à gauche, et inversement. Donc, les lunettes, vous voyez ici même, on ne voit pas grand-chose. Et puis, bon, on imagine, on va relativiser en donnant beaucoup plus d'importance à la voûte, qui est effectivement le sujet principal de la chapelle Sixtine et la commande principale. Hein. Donc voilà la voûte. Alors ici, d'ailleurs, juste une chose, vous voyez ici la peinture de Perugino, c'est Jésus remettant les clés à Saint-Pierre, hein, qu'on verra tout à l'heure, et qui décorait la chapelle Sixtine auparavant. Alors voilà, la chapelle Sixtine, on verra le bâtiment avant l'intervention de Michel-Ange. C'est une chapelle qui était relativement récente, hein, quand Michel-Ange l'a peinte, qui est au cœur donc du Vatican. La partie basse a été peinte au XVe siècle, vers le fin du XVe siècle, milieu, fin du XVe siècle, par des artistes de renom, Botticelli, Pérugin, etc., qui ont fait des scènes religieuses. Et ensuite, la voûte était une voûte, alors je reviendrai là-dessus, était une voûte à fond bleu, avec des petites étoiles qui étaient peintes dessus. Hein, alors je reviendrai un petit peu là-dessus. Mais vous voyez que quand on voit l'ensemble de la voûte, les côtés, ce qu'on appelle les lunettes, sont presque invisibles. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Ben pour de nombreuses raisons. Alors j'ai un document normalement qui montre aussi la chapelle avant l'intervention de Michel-Ange, mais pourquoi je ne la retrouve plus ? Voilà. Alors c'est une gravure, il y a évidemment pas de photo. Hein ? Donc voilà ce que ça donnait. Voilà ce que ça donnait. Vous aviez les peintures, on retrouve justement le Pérugin ici. La remise des clés à Saint-Pierre, on trouve les fenêtres, les niches, ce qu'on appelle les lunettes au-dessus, et puis la voûte et la structure de la voûte, qu'on a du mal d'ailleurs à repérer quand on voit la peinture de Michel-Ange, parce que Michel-Ange a brouillé la structure de l'architecture et à dessein, hein, il le fait exprès, évidemment. Donc voilà, et puis vous savez qu'il y a aussi le fond de la chapelle Sixtine, mais dont je ne parle pas maintenant, puisque le jugement dernier, qui est à l'opposé, qui lui sera pas beaucoup plus tard, hein, vers 1530, quand Michel-Ange aura déjà une soixantaine d'années. Il y a des anecdotes à ce propos-là qui sont assez intéressantes sur la pratique de Michel-Ange à ce moment-là. Donc vous avez un programme qui est très complexe dans le bâtiment, quelque chose qui est aussi de la liberté de Michel-Ange. Quand à Michel-Ange on lui propose de peindre la voûte, d'abord il n'est pas content. Et c'est un peu un cadeau de compensation, je ne sais pas si je vous en ai parlé, qui est important pour lui, parce que Michel-Ange est avant tout sculpteur. Il est sculpteur, dès l'âge de 20 ans, il est connu comme sculpteur, il fait des sculptures remarquables à Florence, à Rome, et donc, si vous voulez, il est connu pour ses chefs-d'œuvre, le David, le Bacchus, une Vierge à l'enfant qui est à Bruges, etc. Enfin, bon, vous savez, un prodige de la sculpture, et le pape Jules II, de l'époque, lui commande des sculptures pour son tombeau. Un tombeau a une sorte de mausolée gigantesque. Les papes, c'est les papes à la Borgia, c'est des princes richissimes et complètement mégalomanes, et qui en même temps a mis des arts à éclairer. Mais, et pour des raisons complexes, le pape abandonne la commande à Michel-Ange. Alors que Michel-Ange avait déjà travaillé, a fait une multitude de sculptures déjà. Il a pensé, il a fait des croquis, il a fait un schéma, il a pensé à tout. Il a passé des mois et des mois à choisir déjà des blocs de marbre. À Carrare, il regarde, il choisit, etc. Et au milieu à peu près de la commande de ce projet, le pape annule la commande. Et Michel-Ange est furieux. Il dit qu'on fiche de lui, qu'on se fout de lui, etc. Il part à Florence, il dit bon, il m'énerve, enfin, je simplifie, etc. Le pape est extrêmement déçu et donc supplie quasiment Michel-Ange de revenir et lui dit mais revenez, donc, etc. Bien entendu, d'accord, on ne ferait pas la sculpture, mais on a un projet qui pourrait vous convenir, etc. Donc il y a une sorte de négociation. Il fait venir Michel-Ange à Rome et il lui présente la chapelle et il lui dit ben voilà, si vous pouviez faire la voûte. Et c'est là où Michel-Ange lui répond cette phrase qui est assez drôle, qui dit oh, je suis sculpteur, je ne suis pas peintre. Donc Michel-Ange dit qu'il n'est pas peintre. Je suis sculpteur, je ne suis pas peintre. En gros, la peinture, c'est un truc un peu de fainéant. On en a jeté un pinceau. Michel-Ange, il est dans le corps à corps. Michel-Ange a toujours un rapport extrêmement physique, justement, et de défi. Hein, de la terribilité de Michel-Ange, la puissance de Michel-Ange, et aussi de ce côté physique. Hein, les sculptures, il attaque le marbre à coup de burin, des sculptures gigantesques qu'il veut faire tout seul, jusqu'à ensuite ralentir, aller dans la douceur de la peau, et puis du modelé qu'il va atteindre par le ponçage, et donc vous avez une sorte de défi physique, y compris une mise en cause du corps. Et puis effectivement, plus il regarde le plafond, plus il commence à penser que effectivement là aussi il y a un défi physique qui finalement il accepte. Il accepte, mais à une condition, il dit vous me laissez tranquille, je fais ce que je veux, vous rentrez pas, vous me laissez la chapelle Sixtine, on va faire des échafaudages coulissants, hein, et je veux qu'on me laisse tranquille le temps que je peigne ça. Point terminé. Et donc, vous avez quelque chose qui est assez beau. C'est là aussi un artiste qui impose vraiment ses règles, qui veut peindre seul. Alors, en gros, il y a un programme, la Bible. Bon, d'accord. Fou des trucs. Donc, si vous voulez, le programme est assez lourd. On est obligé de lui faire un peu confiance parce qu'il est irascible. Et il dit, je vais tout seul. Donc, il y a quelques aides pour lui faire des couleurs, lui broyer des trucs, lui monter à manger, à boire, etc. Il vit presque là-haut, tout en hauteur. Et effectivement, pendant des années, eh bien, il vit quasiment à même pas 2 mètres. Quoi. Le plancher est à peine à 2 mètres, il faut qu'il puisse peindre. Et il vit là, alors il descend. Etc. Donc vous avez un côté aussi très physique. Et même extrêmement pénible pour Michel-Ange et qu'il va assumer complètement, puisque justement il faut être tordu. Il y a même une caricature où il se caricature lui-même avec la tête penchée comme ça en train de peindre. Et il dit même quand je lis une lettre, je suis obligé de la regarder en l'air tellement j'ai le corps totalement tordu. Hein, il dit la peinture me dégouline dans les manches et je suis toujours plein de courbatures en train de peindre pendant des jours et des jours comme ça. Donc là il y a un défi physique, la solitude. Alors. Pour ça, Michel-Ange aussi arrive dans une dimension un peu romantique, puisque là, on est dans cette idée absolue de l'artiste seul. L'artiste seul, donc l'idée de l'individu, l'idée du corps à corps, l'idée physique, l'idée de se dépasser complètement par son œuvre. C'est aussi, Michel-Ange devient une des figures qui, plus tard, va être un peu la figure du génie, un peu romantique hein, par la suite, mais effectivement, la grande solitude. Alors, on pourrait en parler longtemps, évidemment, mais pourquoi est-ce que les lunettes sont justement intéressantes ? Mais y compris pour une raison toute simple, ça c'est pas ça, c'est que les lunettes, au lieu d'être au plafond, elles sont sur le côté. Donc c'est beaucoup plus reposant déjà. Ça, c'est plus reposant, c'est plus discret. Et là, vous avez quelque chose qui n'est plus dans cette espèce de torsion, de puissance, de violence. On n'est plus dans l'espèce de création du monde que l'on va voir dans la voûte. On va être dans une thématique, dans quelque chose de beaucoup plus sensible, beaucoup plus humain, beaucoup plus intime, et y compris dans la manière de peindre. Dans la manière de peindre, vous aurez quelque chose qui sera comme une sorte de zone de repos du Michel-Ange, mais qui nous fait peut-être encore mieux comprendre le reste. Alors, c'est toujours un peu difficile avec Michel-Ange, parce que, évidemment, il y a tout et trop à montrer, on ne sait pas où s'arrêter. Ça nous dépasse aussi, y compris. Alors, le programme, en gros, je vous montrerai un peu en détail. En gros, vous avez la création du monde, la Genèse. Hein, puis ici, on verra tout à l'heure. Création des nuées, du soleil et de la lune, de la terre, des cieux, de Adam, de Ève, le péché originel. Puis ensuite, le déluge, etc. Donc, les scènes, on va dire, majeures. Autour, vous avez des figures qui sont assez complexes parce qu'elles vont puiser dans la Bible, dans ce qu'elle peut avoir de plus archaïque, c'est les prophètes et les sibylles, ceux qui auraient annoncé la venue de la Bible et de Dieu, etc. Et puis vous avez aussi des figures qui, elles, seront totalement stupéfiantes et aussi intrigantes, ça s'appelle les ignudis, les dénudés, qui sont ces figures que l'on verra aussi tout à l'heure, qui parsèment et qui encadrent quelque part les travées de la chapelle, enfin de la voûte de la chapelle. Alors ça, je passe. Là, non, alors, ici, on voit un petit peu, alors voilà les prophètes et les sibylles, hein, qui sont ici. Alors, je reviens maintenant sur un peu plus de détails, justement, le bâtiment, pouf. Alors voilà, la voûte elle-même, revenons sur le programme précisément. Alors, Michel-Ange l'a conçu de façon assez logique. Et là encore, avec Michel-Ange, c'est un esprit de la Renaissance intéressant, parce qu'il va concilier des forces contradictoires. C'est que, à la fois, il faut s'attaquer à la Bible, donc pour lui, il y a le côté défi. Il faut en même temps qu'il y ait une certaine logique et un certain ordre, qui est classique de la Renaissance. Hein, on est en 1506, 7, 8, 9. On est dans le sommet, si vous voulez, culturel et idéologique de la Renaissance. L'idée aussi que le monde entier peut être catholicisé, mais par un catholicisme qui s'est branché sur la philosophie gréco-romaine, y compris musulmane, qui a conquis quasiment les dernières terres à conquérir, c'est-à-dire le Nouveau Monde. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions, mais toujours est-il que vous avez cette idée que voilà, le monde est chrétien et le christianisme est devenu une philosophie humaniste, ouverte, conciliante, qui... voilà, donc on est dans une certaine utopie, une sérénité qui englobe tout. Et en même temps, une grande puissance. Alors, Michel-Ange essaie d'exprimer cette idée-là avec la Bible dans tout ce qu'elle peut avoir de puissance, en même temps un ordre très construit, puisque vous allez avoir chez Michel-Ange ses travées, il va prolonger, il va rythmer l'architecture réelle par des architectures fausses, comme par exemple ces trompe-l'œil ici de corniche qui n'existe pas et que Michel-Ange va peindre, plus avec des sculptures en trompe-l'œil ici, ces sculptures en trompe-l'œil qui vont s'animer ici avec des sculptures ou des figures qui sont en ocre, puis ces figures ocre vont devenir les sibylles et les prophètes qui vont être sur les côtés, et puis ces figures-là qui semblent jaillir et saillir, etc., sont relayées aussi par des scènes, cette fois-ci, bibliques, donc on va aller progressivement vers des scènes bibliques, qui sont vues comme des fenêtres, tantôt des grandes fenêtres, tantôt des petites fenêtres, hein, qui, elles, sont rythmées par des personnages ici qui font le lien, les personnages dénudés. Alors, en fait, avec Michel-Ange, vous avez beaucoup de choses, des choses qui séparent et des choses qui relient. Vous avez les travées, les architectures qui semblent isolées, cadrées, et puis en même temps, à chaque fois, vous avez des figures qui semblent faire le lien, jaillir, surgir, relier, et puis aussi qui relient dans tous les sens. Le haut et le bas, la droite, la gauche, et avec l'œuvre de Michel-Ange, en fait, vous êtes incité à tourner en permanence. Donc, vous avez à la fois de l'ordre et de l'agitation. Vous avez donc quelque chose qui n'est pas ennuyeux, qui est dynamique tout en étant ordonné, et réussit à concilier toutes ces puissances-là. Et c'est là où il devient aussi assez remarquable, c'est que cette force de Michel-Ange, elle est aussi concentrée dans chacune des figures. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur, par exemple, chacun des ignudis, là, des dénudés, est dans une sorte de torsion que vous voyez ici, de manière très très claire, où les corps semblent se tordre. Se tourner la tête vers la droite, les genoux vers la gauche, les épaules dans un sens, les cuisses dans l'autre, à chaque fois, vous avez une sorte de mouvement intérieur qui fait qu'on peut être amené, quand on regarde chacune de ces figures, à voir tantôt la scène qui est ici, tantôt la scène qui est là, et éventuellement être invité aussi à regarder ce qui est en dessous, parce que vous avez donc une multitude de connexions. Donc Michel-Ange fait, c'est une des choses géniales dans cette œuvre, c'est qu'à la fois très rangée, en même temps, il y a plein de nœuds, hein, des connexions qui se font en permanence dans la structure de son œuvre. Alors, il y a, je reviendrai aussi sur ces scènes précisément, bon alors vous reconnaissez le déluge et la chute, Adam et Ève chassés du paradis. Là on trouve la scène très connue de création d'Adam, et ici la création de la lune et du soleil avec Dieu créateur, ici qui crée les nuées, qui crée etc. Mais vous voyez bien ce que, ici on voit très très clairement cette idée du lien entre chacune des scènes, puisque ici l'ignudi, enfin l'ignudo plutôt, a ses pieds dans une scène, le corps sur une travée, et les mains qui sont quasiment en train de frôler quasiment Adam. Adam lui-même qui touche Dieu, dont le drapé semble sortir et se relier ici. Donc vous avez un mouvement permanent avec des choses qui sont à l'endroit, à l'envers, et qui incitent justement à cette espèce de mouvement. Et c'est là où il est très fort aussi Michel-Ange, parce que ce mouvement que l'on voit, on est obligé de l'opérer soi-même. Parce que si vous voulez regarder tout ça, vous êtes vous-même obligé de vous tourner, de tordre le corps, vous aussi vous êtes tordu comme lui l'était, et vous n'avez plus de sens. À la fois, vous avez un ordre, et en même temps, vous ne pouvez pas tout saisir. C'est impossible de tout saisir dans sa globalité. C'est aussi une mise en scène de quelque chose qui nous dépasse de façon très très claire. D'abord, quand on en sort, si vous y êtes allé, on est fatigué, on est frustré parce qu'on n'a pas tout vu, on n'a pas tout compris, il y a trop de monde, on a mal au rein, on a mal à la tête, on regarde ici, on ne sait plus regarder, on a vu un truc. Donc on est soi-même dépassé, et on est frustré, on dit, mais c'est bon, mais est-ce que j'étais à la hauteur de l'œuvre? Donc quelque part, c'est une œuvre qui dépasse vraiment au sens. Et en plus, avec quelque chose, Michel-Ange est le premier à faire un plafond pas, c'est une œuvre dont on ne peut pas s'approcher. Donc on est aussi dans la frustration totale. N'importe quelle peinture au mur, vous pouvez vous en approcher. Donc quelque part, vous pouvez prendre du recul philosophique ou artistique. Puis d'un coup, allez voir comment c'est fait. Là, on est dans une tension permanente, quelque chose qui nous échappe au sens strict. On ne peut pas le voir de près. Donc là, on est comme soumis et ravi à la fois. Et c'est encore une des forces de Michel-Ange. Alors, ce qui se dit aussi, alors il y a plein de choses qui se disent évidemment, heureusement, sinon ça serait un peu... c'est que les corps comme ça, puissants, alors, aussi tous ces corps qui sont très puissants, c'est un petit peu, Michel-Ange les aurait en fait rêvés pendant des années, quand il pensait à ses sculptures en voyant les blocs de marbre. Et que quand il est arrivé au pied de la chapelle Sixtine, en gros c'est comme s'il avait projeté en peinture tous les corps auxquels il avait rêvé en sculpture. D'où le côté de force, de puissance, presque de masse qu'on voit dans les reliefs, les modelés, les dégradés, qui imposent. Et ici, au premier plan, c'est assez étonnant d'ailleurs, dans cette peinture de Michel-Ange, cette peinture, c'est qu'en fait, Michel-Ange, d'ailleurs, si vous regardez, c'est essentiellement des corps. Il n'y a pas de paysage, pas d'architecture, sauf l'architecture ici qui cadre et qui nous relie avec le bâtiment réel, mais il ne représente pas d'ailleurs architecture Alors, il faut dire, pour la Bible, on est une sorte d'absolu, l'absolu qui est porté par des corps. Quelque chose aussi qui est très emblématique de Michel-Ange au niveau de, justement, du rapport au corps, c'est, toujours dans, avec Michel-Ange, on est toujours dans le paradoxe, c'est la création d'Adam. On voit bien que Adam a un corps très puissant, il est costaud, il a fait la salle, on pourrait dire, hein, et en même temps, il est complètement mélancolique. Cette force semble ne lui servir à rien. Vous avez une sorte de mélancolie dès l'origine, avec un homme, un humain ici, qui est presque une sorte de double de Dieu, ici, qui est en train de le créer, et aussi un abandon. C'est-à-dire que le Adam de Michel-Ange est comme abandonné par Dieu, abandonné à la solitude et la mélancolie, avec une force, un corps fort, mais à quoi bon? Pour que faire? Donc une sorte d'encombrement du corps. Et chez Michel-Ange, alors en général, c'est ce qui se dit, et c'est assez juste, chez Michel-Ange, la plupart du temps, le corps est une sorte d'encombrement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'en faire, d'où l'agitation, d'où la torsion. Et c'est bien spécifique, c'est quelque chose que vous n'avez pas dans les autres œuvres de la Renaissance, où en général le corps est harmonieux, équilibré, il a trouvé sa place. La Renaissance italienne se caractérise justement par cette espèce de sérénité, où on sait où l'on est, sur la terre, lié au ciel, on sait où est le point de fuite, l'horizon, on sait comment aller vers le lointain, maîtriser mathématiques, sciences, nature, etc. Et tout d'un coup, Michel-Ange introduit du doute, du drame, une certaine mélancolie, une solitude, et on pourrait presque dire que Michel-Ange est dans une sorte de pré-romantisme, mais c'est pas complètement faux. Alors, je vais continuer. Alors, donc voilà ce qu'on appelle les travées. Et vous avez ici, ce qui est assez drôle aussi, c'est finalement la place occupée au sens même de quantité par les scènes centrales de la Bible, cette création d'Adam, est assez petite. Vous avez une sorte de foule de personnages qui sont parfois des intrus, certains ont des rôles importants, les prophètes, les sibylles, qui sont comme des visionnaires. Et puis vous avez aussi une foule de gens qui grouillent, qui s'agitent, qui tournent leur tête dans tous les sens, qui cherchent leur place au sens strict. Alors, c'est où, là aussi, Michel-Ange est un des seuls artistes de la Renaissance, aussi, de cette époque, à aborder peut-être la question du genre humain. C'est-à-dire, c'est presque l'humanité qu'il parle. Une humanité qui se tourne dans tous les sens, qui se cherche, qui ne trouve pas tout à fait sa place, dont certains sont porteurs de valeurs ou de sens, etc. Vous avez une sorte de représentation d'une humanité, hein, qui est assez claire dans ses œuvres. Hein. Alors après, d'ailleurs, vous avez une sensation un peu de grouillement dans les petites scènes latérales, ça c'est le serpent d'airain, ça je ne sais plus quelle est cette scène de la Bible, etc. Et là, vous avez cette idée aussi d'un dévoilement, d'un coup, un geste, qui nous montre tout ce qu'il y a à voir. Alors, là, la création des nuées. Alors, les figures des Inuits sont aussi androgynes, souvent. Des corps très masculins, très costauds, presque jusqu'à la caricature, mais des visages qui sont souvent androgynes, des postures même avec une certaine manière, et on verra plus tard l'importance que ça a aussi dans l'histoire de l'art. Alors, il y a aussi une virtuosité chez Michel-Ange qui est prodigieuse, et là, on peut venir à des questions techniques. Alors voilà, encore la création de la lumière. Hein. Vous savez que c'est de la fresque, donc c'est pas peint à l'huile, c'est pas en fresque, c'est-à-dire, rappelez-vous, la technique de la fresque, il faut peindre rapidement. Donc Michel-Ange est obligé de travailler assez rapidement. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, c'est monumental, c'est-à-dire que chaque figure est beaucoup plus grande que l'échelle humaine, c'est-à-dire que, et il n'a pas de recul. Donc il est à ça, et il peint des figures qui font presque 2-3 mètres, comme si c'était des humains de 3 mètres, hein, qui sont courbés, etc. Donc il faut d'abord une projection mentale absolument géniale, il faut avoir un sens incroyable, il ne peut pas descendre, parce qu'il ne peut pas s'allonger par terre, il est éclairé souvent à la bougie, parce que, ou au flambeau, parce que si vous voulez, les lumières viennent latéralement, c'est pas évident d'éclairer ça, c'est assez compliqué. Alors pour travailler d'ailleurs, c'est un travail physique, il fait des grands cartons, hein, il dessine sur des grands cartons, il fait tous ses projets sur des grands cartons, qui sont à l'échelle 1, donc à l'échelle de la fresque, et puis il les plaque contre le plâtre frais, et il pique, ou alors il trace en appuyant comme un calque, de façon à ce que le dessin soit reproduit sur le plâtre frais. Ensuite, il enlève le carton et il peint directement. Et il faut se dépêcher. C'est-à-dire que tous les dégradés, tous les modelés, il les fait de tête. Il n'a pas de modèle qui pose pour lui. Le carton, c'est essentiellement les silhouettes et les postures. Il y a quelques éléments de hachure pour donner les nuances de modeler. Mais si vous voulez, tout le reste, couleur, posture, anatomie, lumière, peau, musculature, c'est quasiment fait de mémoire parce que voilà, les corps, il les a en tête. Quand il sculpte, il a une connaissance de l'anatomie qui est prodigieuse. Par contre, il y a une chose qui est... Tous les historiens d'art, de son temps même, se lamentent et s'arrachent encore les cheveux. Tous les cartons ont disparu, ils les brûlent tous. Ils brûlent tous les cartons. Tchouf. Hein, au point que, comme il est connu, ça se sait qu'il est en train de faire ça, que c'est un peu un artiste mythique, un peu se cacher, qui fait des trucs, qui est connu pour ses sculptures. Un Vénitien très célèbre, je crois que j'en ai parlé, n'arrête pas de lui écrire L'Arétin, qui était un Vénitien éclairé, qui lui dit, mais envoyez-moi un de ces cartons, on sait que vous les brûlez, qu'est-ce que vous en faites, mais... Au lieu de le brûler, vous m'en envoyez, je vous le paye ce que vous voulez, je vous fais les cadeaux, je vous invite à venir, je fais ce que vous voulez, mais donnez-moi un de vos cartons. Tellement il est connu. Et Michel-Ange ne répond même pas. Et donc l'Arétin lui dit, mais on sait que vous les brûlez, au lieu de les défaire, il lui écrit plein de fois. Il lui écrit nombre de fois, et Michel-Ange ne répond pas, Michel-Ange s'en fout complètement. Au niveau des sous, Michel-Ange est très détaché de ça. Il a sa famille qui l'entretient, etc. Mais c'est un personnage aussi étonnant de ce point de vue-là. Mais vous avez la virtuosité incroyable qui fera aussi partie de ce succès, effectivement, de cette œuvre. Alors la monumentalité des corps aussi a pu sembler choquante, c'est ce corps disproportionné, alors qu'on sait très bien que, par exemple, dans le Bacchus, dans le David ou dans la Pietà, Michel-Ange est parfaitement capable d'avoir des corps avec des proportions humaines très délicates même et fines. Et en fait, un des coups de génie de Michel-Ange, c'est de faire des corps comme ça, massifs, que Matisse va reprendre d'ailleurs plus tard dans la danse de la collection Barnes, des corps massifs, parce que dans une architecture, si vous faites des corps un peu normaux, ils vont avoir la tout frêle. C'est-à-dire que dans une architecture, il faut des corps qui soient un peu monumentaux pour qu'ils soient un petit peu, qu'ils aient cette espèce de puissance architectonique, on va dire, un peu comme les sculptures. C'est-à-dire si vous faites une sculpture ou une peinture sur un mur qui est un peu à des proportions normales, elle va sembler beaucoup trop frêle. Parce que d'abord, elle n'est pas en volume. Et ensuite, donc, le côté monumental et massif qui peut sembler un peu étrange est en fait un sens remarquable de la composition dans l'espace réel. Ça aussi, c'est, vous avez une peinture qui est dans un espace réel et complexe. Alors, bon, la création de la lumière, alors ça c'est quand même assez drôle, c'est que vous avez une représentation de Dieu. Hein, là, c'est Dieu le Père, c'est pas Jésus. Cœur présenté, alors, comme quelqu'un de pas sympa. Grandeur, furieux, on voit même ses fesses ici, enfin, c'est assez drôle. Une sorte de personnage ici, un peu caricatural, alors jupitérien, vraiment, cette fois-ci, mais qui est empreinte à Zeus, Jupiter, Sérapis, etc. Et toujours représenté dans une espèce de furie, ou de ce qu'on appelle la terribilita de Michel-Ange. Alors ici, le voilà en plus. Alors juste aussi un truc, ça c'est les couleurs après restauration. Quand vous étiez jeune, j'imagine, comme moi, c'est qu'on connaissait la chapelle Sixtine, et qui a véhiculé encore plus l'idée de la puissance et de la terribilità, comme on dit en italien, c'est que c'était très sombre à cause des fumées, de la suie, etc. Et donc ça donnait encore une dimension encore plus dramatique. Quand ça a été nettoyé, il y a plein d'historiens d'art qui ont dit « Mais non, Michel-Ange, c'est pas ça, vous êtes en train de faire un Michel-Ange plein de roses bonbons, etc. » Donc il y a eu des disputes très fortes au moment où ça a été nettoyé, parce que beaucoup étaient tellement dans l'idée d'un Michel-Ange romantique et tragique qu'on ne supportait pas de voir des couleurs acides et des couleurs pures, les couleurs du prisme de l'arc-en-ciel, les binaires, les couleurs primaires, etc. Alors que c'est très clairement un propos de Michel-Ange qui est incontestable. Alors, la création d'Adam. Alors, la création d'Adam, ce qui est aussi assez notable, c'est l'idée que ce Dieu n'est pas plus grand qu'Adam. Il n'est pas plus grand qu'Adam. Il est porté aussi par des figures étranges. Et c'est là où vous avez aussi Michel-Ange invente une iconographie vraiment stupéfiante, qu'on a du mal à interpréter. Cette figure totalement androgyne, ici, est-ce que ce sont des pectoraux, des seins, on ne sait pas. Un regard comme ça sur lequel je reviendrai justement, qui accompagne Dieu. Ce sont des anges sans ailes, donc qui sont aussi dans un rapport assez étrange, presque sensuel, sensible, de complicité avec ce Dieu créateur, hein, presque complice contre l'humanité d'Adam qui a abandonné, comme une sorte d'Adam est tout seul, et en même temps Dieu et ses anges semblent avoir une sorte d'autonomie et aucune compassion, puisque cette idée aussi de l'abandon, alors ça c'est très connu, évidemment, et Adam, déjà mélancolique, en gros, bah, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que je fous là, et maintenant, et quoi, etc. Et puis un corps massif, mais qui ne sert à rien. Alors, Michel-Ange disait lui-même que le corps était comme une prison terrestre, hein, carcere terreno, il disait, c'est le corps une prison terrestre qui emprisonnerait l'âme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le rapport physique à la peinture, c'est une manière pour Michel-Ange d'éprouver son corps, son vrai corps, le peintre, quoi, d'artiste. C'est qu'il veut en faire sortir quelque chose. Donc vous avez ce côté physique, que ce soit dans la sculpture ou dans la peinture, c'est très clair chez Michel-Ange. Alors, bon, ça on connaît, ça on a vu. Alors, la création de Ève aussi, pendant que Adam est endormi, avec un dieu qui a dit, bon, allez, hop, on y va. Alors, sur Adam et Ève, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Tu vois-t-il que voilà la création de Ève, et vous avez ensuite, évidemment, bah, la voilà en plus grand, là, l'arbre de la connaissance, et le fruit, la pomme, le fruit de la connaissance avec le serpent, alors, etc. Donc, Adam et Ève complices dans cet échange. Alors, vous avez aussi que Ève est représentée très costaud, hein, très musclé, Adam aussi. Et ici, quand ils sont chassés, alors là, c'est intéressant, tout d'un coup, ils sont aussi marqués par l'âge. Hein, tout d'un coup, c'est aussi, ils rentrent dans l'espace, le temps, la nécessité, le travail. Hein, on est chassé du paradis terrestre, ça veut dire aussi être jeté, donc, dans l'espace et le temps. Hein, et tout d'un coup, donc, l'âge, la vieillesse, et tout d'un coup, le malheur, qui va tout d'un coup s'abattre. Donc une humanité, évidemment, seule encore, dans un territoire dépouillé. Alors ça aussi, chez Michel-Ange, il y a cette radicalité qui fait que... Alors que c'est quelqu'un qui est l'exemple même, on peut dire, de la Renaissance. On a vu tout l'importance du paysage, du climat, de l'architecture. Et là, Michel-Ange, lui, il vide complètement l'espace. Hein. Là aussi, il est stupéfiant parce qu'il a des grandes libertés, même par rapport à la culture dont il est issu. Et voilà, cette scène en deux temps. Hein, et le paradis, d'ailleurs, est représenté de manière très très sobre. Hein, il n'y a pas, des jardins, des plantes, des animaux, etc. On voit bien que Michel-Ange aussi est fasciné par les notions, les idées, les concepts, beaucoup plus que par la narration, etc. Il va à l'essentiel avec une grande efficacité, et y compris une plénitude des corps ou des volumes, comme par exemple le dégradé, les modelés, qui sont aussi très efficaces. Alors au niveau technique, juste quelques exemples, attendez. Là, je ne sais pas si on s'en rend compte. Si, mais là on voit un peu. Là on voit un petit peu, vous voyez les traits là, qui sont assez clairs là. Hein, vraisemblablement correspondent alors à ce qu'on appelle, on avait vu ça à la giornata, hein, c'est la journée de travail de la fresque, où l'enduit est fait juste sur une zone que Michel-Ange peut travailler pendant que c'est encore frais. Hein. Il y avait un film qui était assez marrant, assez bien fait d'ailleurs, mais je l'ai perdu, où on voyait Michel-Ange en train de faire l'enduit, de peindre. Il est furieux, il recasse tout l'enduit, il doit refaire l'enduit, etc. Parce que, évidemment, la fresque, vous ne pouvez pas peindre à sec. Une fois que c'est sec, ça n'a plus du tout le même effet. Donc, si vous voulez, si vous ratez, eh ben, faut refaire. Il faut donc casser ce que vous avez fait, refaire un enduit frais et repeindre en frais sur le fond. Ce qui fera dire... 30 ans plus tard, quand Michel-Ange, on lui demande de faire le jugement dernier, c'est donc vertical, et c'est... donc on est en 1535-36, et on lui demande de faire ça, il arrive, il a une soixantaine d'années, et donc avant qu'il arrive, les techniciens et les spécialistes de la chapelle Sixtine disent « Bon, voilà, Michel-Ange, il a 60 ans maintenant, à l'époque c'est plus jeune, enfin il vivra jusqu'à 81 ans, hein. Mais il va peindre le mur, mais la fresque c'est un peu trop dur pour lui, on va donc faire un enduit, et cet enduit, il pourra comme ça peindre à l'huile. » Et quand Michel-Ange arrive, il voit ça, il dit « Oh là, la peinture à l'huile c'est pour les feignants, vous cassez l'enduit, vous refaites, moi je peins à fresque. » Parce que pour lui, la peinture à l'huile, pourquoi c'est pour les feignants? Pour lui, parce que ben, on peut refaire, on peut attendre que ça sèche, on peut repasser, la peinture à l'huile, vous pouvez passer un an sur un tableau comme ça, il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez, vous avez... Avec Michel-Ange, le côté physique, technique, le défi avec la matière, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique. C'est vraiment quelque chose qui va, il va vivre ça avec une force et une puissance qui prend du sens quand on voit son travail. Alors, là aussi, hein, c'est que vous avez quand même aussi cette force et cette puissance, ça n'empêche pas une grande délicatesse dans les modelés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre trop forte, ça aussi, il y a une sorte de puissance, une inquiétude, une certaine agitation, mais on ne tombe pas dans l'agitation, dans l'excès. Il n'y a pas d'excès de contraste, il n'y a pas d'excès d'ombre et de lumière. Vous n'avez pas non plus, donc on est dans une certaine mesure qui est typique de cette Renaissance malgré tout. Donc ça c'est aussi évidemment ce qui fait le succès de cette œuvre extraordinaire. Alors ça, voilà. Alors dans les anecdotes autour de la chapelle Sixtine, bon, je ne vous fais pas dans tout le détail ici, il y a celle dont je vous ai parlé l'autre jour avec Raphaël, c'est que Raphaël, apprenant que Michel-Ange est en train de peindre ça en secret, et Michel-Ange ne veut pas être dérangé, ne veut pas qu'on voit son travail, une nuit il descend et effectivement il ouvre la clé, il ouvre la porte de la chapelle Sixtine et il voit une partie de ce qu'a déjà peint Michel-Ange. Il est tellement ébloui qu'il peint Michel-Ange, il fait son portrait dans la fresque l'école d'Athènes, où il y avait déjà Léonard de Vinci, et il met Michel-Ange, et lui-même il se met dans un coin. Donc vous avez aussi quelque chose qui montre l'aura qu'il pouvait avoir. Il était encore jeune, hein, il avait une trentaine d'années, un peu plus, mais Raphaël était encore plus jeune, et Léonard un tout petit peu plus âgé, mais ça fait partie des mythes autour de Michel-Ange. Alors ça, je crois qu'on a vu. Voilà. Alors, ici. Alors maintenant, les sujets, on a vu un peu le grand sujet autour de la Bible. Alors, où la Bible, il va à l'essentiel. Hein. C'est en gros création du monde, création d'Adam. Il n'a même pas mis Adam faisant les animaux, nommant les animaux, les créatures sous la terre, sous l'eau, sur la terre, dans le ciel et dans l'eau. Donc, ce qui l'intéresse vraiment, c'est plus l'humanité. Et d'ailleurs, vous avez dans un des sujets qui est dans le dernier sujet que l'on voit, excusez-moi, c'est un peu désordonné, mais enfin, c'est de la faute à Michel-Ange, on voit le déluge. Et là encore, dans le déluge, vous avez quand même une scène d'un dieu pas content. Hein, vous avez quand même une idée d'un dieu qui est pas forcément bienveillant. Hein, et il faut se débrouiller un peu tout seul. Et Adam est tout seul, Noé et ses familles sont aussi tout seuls, hein, la solitude. Donc vous avez compris dans le regard de Michel-Ange, y compris sur la tradition biblique, quelque chose qui est très moderne, parce que c'est l'expression de la solitude. Donc l'idée que dans le genre humain, c'est une foule, c'est une masse, mais chacun est seul, vous avez le côté, on va dire, positif, intellectuel, avec Frédéric de Montefeltre, la pensée singulière, etc. Mais vous avez aussi le sentiment d'abandon, de solitude, et puis du sens de la vie. Hein, de prison terrestre, qu'est-ce qu'on fait de son corps, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, qu'est-ce qu'on fait de son temps, etc. Alors Michel-Ange, y compris dans sa pratique, répond aussi, puisque en faisant de l'art une sorte de mode de vie, au sens strict, parce que lui, il sort pas à Rome dans les tavernes, on lui connaît pas de relation amoureuse réelle. Hein, sans doute, il reste très platonique dans ses relations amoureuses dont on ne sait pas, hein, puisqu'elles sont platoniques, si elles sont homosexuelles ou platoniques, etc., ou pures, etc. Il va être amoureux d'une femme, amoureux sans doute de jeunes hommes, etc. Mais ça passe essentiellement par cette lettre, ses poésies, etc. Donc c'est quelqu'un qui est effectivement aussi là seul. Il a sa famille à qui il envoie des sous, etc. Mais c'est aussi un personnage misanthrope. C'est pour ça d'ailleurs que Raphaël le met tout seul dans son coin. Misanthrope, et en même temps il aime l'humanité, mais dans son essence. Alors donc le bâtiment, attendez, je revérifie, on a vu ça, voilà. Alors les petites scènes de la chapelle Sixtine, alors les ignoudis, là vous avez quelque chose qui justement échappe à l'iconographie chrétienne. C'est là où aussi Michel-Ange est étonnant, parce qu'il va introduire des figures que l'on ne voit pas ailleurs. Donc vous avez aussi une solitude et une invention, hein, le génie créateur au sens strict, qui fait naître, genius, créateur, etc., le génie celui qui fait naître, eh bien, qui va inventer des figures totalement libres. Hein. Alors, lui, il dit, parce qu'il y a quand même des entretiens, il y a des textes de Michel-Ange, il y a des textes de Michel-Ange, il y a des entretiens de Michel-Ange, il y a beaucoup de son vivant, il y a beaucoup d'articles, etc. Il dit en fait que c'est pas lui qui invente, mais qu'il est possédé par des puissances supérieures. Hein, pour sa sculpture, quand on lui dit « Comment vous faites pour trouver ces corps ?», il dit « Mais je ne les trouve pas, ils y sont déjà. Moi, je ne fais que les faire apparaître. Je les fais apparaître, ils sont dans le marbre. Moi, j'enlève le surplus, et ils sont là. Je suis qu'un outil dans les mains de Dieu. Moi, j'invente rien. Et c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Et vous avez donc cette idée du défi. C'est, il se vit comme un instrument dans les mains de puissance supérieure. Alors, si ça fait partie du mythe de Michel-Ange, ça fait de force. Donc, ces postures qu'il présente ici sont aussi assez emblématiques de cette liberté. Parce que la liberté, il n'a pas l'impression, lui, de provoquer. C'est pas lui qui choisit. C'est vraiment quelque chose de plus fort que lui. Donc, bon, s'il fait ça, et ben, au sens strict, c'est l'inspiration. Mais si vous voulez, vous avez quasiment jamais eu d'artiste qui exprimait ça clairement jusqu'en 1500, jusqu'à la date de Michel-Ange. Voilà. Ça va aussi construire beaucoup le stéréotype de l'artiste créateur, inspiré, seul, etc., qui est porté. Alors là, Cézanne nous dit, alors vous avez des formes qui sont effectivement presque radicales dans leur simplicité, une sorte de Z pur, mais qui est gonflée ou amplifiée par volume, ombre modelée, et une sorte de vent, de souffle, qui anime, au sens strict, souffle et anime, ça veut dire la même chose, avec des postures, quand on les regarde, qui sont étranges. C'est ce personnage qui joue avec des rubans, en train des lacets, qui semble se dénouer, qui semble presque danser tout en étant assis. Certains sont inquiets, certains sont joyeux, on est presque dans quelque chose de faunesque, presque de dionysiaque, hein, avec des corps, effectivement, massifs, hein, et en même temps sportifs et équilibrés, et jeunes, avec des postures étranges, ici presque maniérées, hein, là avec un visage aussi petit par rapport au corps massif, hein, même plus que massif, mais en même temps d'une anatomie très très juste. Alors, il y a une dimension de sexualité évidente, un érotisme étrange chez Michel-Ange qu'on trouvait quasiment jamais ailleurs, et c'est quelque chose sur lequel je vais développer tout à l'heure, enfin plus tard, au XVIe siècle, sur ce qu'on appelle le maniérisme, justement. Alors là, regardez, même les postures sont stupéfiantes. Hein, ce personnage qui accroche le tissu avec un doigt, qui relève les pieds, dans une sorte de tension et d'oisiveté étrange. Parce que là, ce sont des personnages qui sont presque des purs corps, hein, qui ne savent pas que faire de leur corps, et qui sont là encore toujours dans la torsion. Alors la torsion, comme ça, la rotation du corps, soit selon un axe, soit selon un plan, c'est quelque chose qui est un grand classique de la sculpture grecque, que Michel-Ange connaissait parfaitement. Toutes les sculptures de l'Antiquité grecque sont dans un principe de rotation du corps, hein, et d'ondulation. Et d'ailleurs, Michel-Ange pouvait dire, et d'ailleurs il le dit, quand je fais une sculpture, on peut la jeter dans un escalier, elle ne se cassera pas. Parce qu'en fait, elle est faite, d'abord pour être à la fois, elle a l'air bon, sauf peut-être le David encore avec le bras, mais si vous regardez bien, elles sont faites pour avoir une certaine cohérence qui fait que, en fait, il n'y a rien, elles bougent, mais elles sont elles-mêmes en torsion, et donc elles pourraient presque rouler sur elles-mêmes, parce qu'il y a une certaine logique de leur propre rotation qui fait que si elles tombaient, ben, elles rouleraient naturellement. Donc cette idée de s'inscrire dans un espace physique, c'est quelque chose qui fait que c'est à la fois, on est dans le mouvement, mais on n'est pas dans une agitation dans tous les sens. C'est quelque chose d'assez construit, mais qui donne aussi la vie et la tension, puisque cette idée d'une torsion va aussi, si on bouge, et bien ça va faire presser l'air intérieur vers l'extérieur. Donc vous avez toujours cette idée d'expression au sens strict que l'on voit dans les postures des corps. Alors là, c'est systématique dans ces figures qui sont un peu comme une sorte d'énergie primaire, hein, de l'humanité dans les ignudi. Alors, y compris le nu, hein, le nu en peinture et le nu au cœur du bâtiment, un des bâtiments les plus importants du Vatican, au cœur de la chrétienté, c'est assez étrange. Alors, ça passera très bien, parce que si vous voulez, il y a une sorte de sobriété, on est à la Renaissance, donc on n'est pas non plus dans une culture pudibonde. Hein. Alors voilà, ça ce sont les ignudi. Alors, ils servent de lien, hein, sur les travées architecturales. Alors, les sibylles et les prophètes, les sibylles sont des figures féminines, des sortes de prophètes féminin, que l'on trouve dans les traditions grecques essentiellement ou bibliques, qui sont en général considérées dans la Bible comme des figures non bibliques, non, qui ne seraient pas de la culture juive du livre, de la Bible, mais qui en même temps seraient un peu annonciatrices dans les anciens temps, dans les temps préhistoriques ou pré-bibliques, du divin, du monothéisme à venir. Donc les sibylles, comme par exemple celle de Delphes, etc., sont dans un monde qui n'est pas juif, et a fortiori encore moins chrétien, mais qui sont déjà des figures qui annoncerait l'arrivée d'une humanité réconciliée derrière un monothéisme. Alors elles sont quand même associées cette fois-ci au livre, elles ne sont pas dans l'agitation complète des corps, comme on l'a vu, des inudis qui justement sont dépouillés, n'ont rien, sont dans une sorte de quête. Et là, vous avez au contraire des sibylles qui sont déjà dans le texte à venir. Elles sont un peu dans une torsion, mais beaucoup moins agitées, avec ici la beauté des drapés, et elles font le lien, effectivement, entre aussi les différentes arcs. Alors ça, c'est la sibylle de Cume.
Waouh.
C'est costaud. Et alors, c'est assez stupéfiant, parce que là, Michel-Ange, il est à la limite, effectivement, de la caricature, de la grossièreté, d'une certaine grossièreté, effectivement. Et pourtant, ça tient la route, parce que là, il y a la beauté de la lumière, la beauté des corps, il y a une sorte de liberté incroyable dans les proportions, et dans ces postures. Et puis, rappelez-vous, ça passe parce qu'en fait, dans l'architecture, eh bien, un corps massif, finalement, il se fond dans cette espèce de masse. Là, mais c'est assez saisissant. Alors celle-ci est beaucoup plus connue, un peu plus gracieuse, et quand je vous parle justement, alors, elle fera le lien un petit peu avec ce que je vous dis tout à l'heure, ce qui est notable, et qu'on a déjà vu précédemment, dans certaines des figures que je vous montrais, ce qui est le plus notable ici, alors il y a la posture qui est remarquable, au niveau de la torsion, elle regarde dans un coin, elle se tourne vers l'autre, elle a un genou qui est tourné vers nous, hein, le bras vers là, la tête vers sa gauche, le bras vers sa droite, un autre bras vers sa gauche, son genou vers la droite, et ainsi de suite. Donc vous avez cette idée de tchou-tchou, torsion, qui est assez claire, les courbes. Mais ce qui est aussi notable et qu'on voit chez Adam, c'est effectivement en fait, le regard. Le regard, et en fait, Michel-Ange, c'est là en fait, toute cette introduction pour arriver à cette question-là, c'est la question du regard. La question du regard chez Michel-Ange, c'est quelque chose qui va être très... qui n'a pas l'air important, parce qu'on voit surtout des corps, on voit surtout des corps forts, puissants, massifs, etc. Et en fait, tout ça, pourquoi ? Ben, tout ça pour arriver à cette inquiétude, ce doute, cette solitude qu'exprime un regard qui regarde presque toujours en coin, de côté, de travers, avec une figure un peu inquiète. Pourquoi est-elle inquiète? Qu'est-ce qu'elle regarde? Etc. Or, la question du regard, pour Michel-Ange, elle est absolument cruciale. Déjà, pour nous, pour le spectateur, pour lui, la chapelle Sixtine, à voir comment est-ce qu'on regarde ça. L'idée que, justement, on n'est plus du tout... Or, pourquoi c'est important? Parce qu'on a vu Alberti. La question de la Renaissance, c'est justement le regard, il est monoculaire, il est fixe, on sait très bien où on est, rappelez-vous l'expérience avec un monoculaire, et il est presque scientifique. Le regard, c'est une connaissance objective du monde. C'est un point de vue qui nous permet d'englober les choses, de nous reconnaître, de nous repérer, etc. Et tout d'un coup, avec Michel-Ange, vous avez un peu l'idée que le regard commence à s'affoler un peu. Il est mu, cette fois-ci, par des forces étranges. Chez Léonard de Vinci, dans la Joconde aussi, c'est un regard un peu intéressant. Mais ça, c'est quelque chose... Alors, vous allez voir dans la Sibylle, vous allez voir dans d'autres œuvres ici, ça sera clair. Alors, voilà une autre, la Sibylle érythréenne, etc. Alors celle-ci aussi est très connue, hein, dans la torsion. Alors là où il est sublime aussi, c'est quand on regarde le détail, par exemple, des vêtements. En fait, ça a l'air de rien, mais les bandeaux dans les cheveux, les tresses, les coiffures, les nœuds, les coutures, les tensions, les rubans, les plis, les drapés, les moirages, les reflets, les transparences, tout ça fait à la fresque en trois coups de pinceau, parce qu'il faut faire vite. Hein, il faut faire vite, et c'est fait en une journée, il fait une peinture, hein, il fait une sibylle en une journée, tchoc, 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 et sans modèle, il n'y a personne qui pose sur lui, il n'y a pas de drapé, selon lui. Donc il y a aussi une virtuosité prodigieuse, et il y a la force, mais regardez la délicatesse, les postures des mains, des bras, le regard, le visage. Donc il y a un Michel-Ange terrible, un peu, mais il y a aussi un Michel-Ange finalement très tendre, très doux, inquiet, sensible. Et c'est celui-ci, en fait, que je vais vous montrer aussi. Alors, on a vu les sibylles, les prophètes, qui sont aussi des sortes d'annonciateurs. Alors, eux, ils sont aussi dans une sorte d'agitation. C'est très clair, quand on le voit ici. Alors, on a déjà le livre, hein, c'est les prophètes. Tout d'un coup, on se retourne un peu avant la nuitée, on est dans le livre. la regarder aussi le vent dans leurs cheveux, avec cette idée d'une sorte de souffle un peu de l'histoire, là, ou souffle de l'histoire religieuse, qui est en train de lire et d'écrire. Là, on se retrouve avec des rouleaux de papier, avec quelqu'un qui l'aide, que le livre est une responsabilité, quelque chose de fondamental. Même l'écriture et la pensée, c'est quelque chose de physique, cette fois-ci. Là, c'est incarné, hein, de façon très claire. Là encore, hein, le rouleau dans la main, une pensée qui est proche d'une action, hein, Ézéchiel avec des visions un peu folles, et là encore, force, puissance, et le souffle, hein, le vent, cette fois-ci, exprimé pas uniquement par la torsion du corps, mais y compris par une sorte de vent qui semble passer dans les foulards d'Ézéchiel ici. Là encore, qui va gonfler la toge ici de ce personnage, je sais pas qui c'est celui-là, c'est ça. Je sais pas qui c'est ce prophète. Et là encore, le doigt dans le livre, etc. Réveillé de sa pensée, avec aussi cette idée d'aller voir ailleurs, une sorte de tension, cette idée que le prophète, il est aussi... Tous les prophètes et les sibylles sont aussi des sortes de passeurs, donc c'est normal qu'ils soient en torsion et en tension, puisqu'ils ne sont pas exactement là où ils devraient être, puisqu'ils annoncent quelque chose qui est d'avenir. Donc on est aussi dans une sorte de décalage avec le monde. Ce qui est assez clair, qui se voit là. Et là aussi, la méditation. Alors, c'est un truc tout bête, hein, mais Rodin, quand il va faire la porte de l'enfer, etc., le penseur, c'est Michel-Ange, c'est sa grande référence, évidemment. Le jugement dernier, cette puissance, cette force, l'humanité, les torsions, les envols, le haut, le bas, c'est cette force, cette puissance. Rodin, peut-être le dernier à avoir essayé d'égaler Michel-Ange en sculpture et dans cette vision de l'humanité. Et d'ailleurs, les références sont assez claires chez lui. Là, la sagesse, hein, l'âge aussi comme une sagesse, c'est clair encore. Et, bon, ça je passe. Et encore ici. Alors, donc ça c'est des prophètes. Alors maintenant, on vient à ce qui nous intéresse. C'est donc les lunettes, proprement dites. Et dans ces lunettes, le sujet qui est assez étrange et un peu nouveau. D'abord, il est nouveau, d'abord, par sa pratique. Et c'est la généalogie de Jésus. Alors, la généalogie de Jésus, mais en plus un peu ambiguë, parce que la généalogie de Adam à Joseph. Donc, de Adam à Joseph, donc c'est une généalogie divine, et en même temps, jusqu'à un père qui n'est pas son père, Joseph, donc si vous voulez, c'est un peu complexe, parce qu'il est en même temps fils de Dieu, mais comme toute cette généalogie inspirée par Dieu, vous avez quelque chose qui est un peu une filiation, qui est un peu interrompue, et en même temps légitime, quelque chose d'assez étrange sur la généalogie même. Mais là où je vais vous montrer, tout d'un coup, je voulais faire passer relativement vite, et puis on s'arrêtera un petit peu. Alors, Michel-Ange, là aussi, c'est assez génial, parce qu'il va utiliser la forme des courbes pour cette idée d'un cycle, d'un mouvement comme ça, ching. Et en fait, ce qui est dans la Genèse, dans la Bible, machin, fils de machin, fils de machin, fils de machin, alors là aussi, on est complètement dans la généalogie uniquement patrilinéaire, alors qu'on sait que la vraie généalogie, elle est matrilinéaire, la seule dont on soit sûr. Et là, vous avez dans la Bible, vous avez pas un nom de femme quasiment, si, il y en a quelques-uns, mais pas du tout dans la généalogie. Donc, sauf Marie, Anne, etc., mais c'est assez court. Et si vous voulez, alors Michel-Ange, lui, au contraire, il introduit d'ailleurs des femmes, là où normalement il n'y aurait que des humains, lapsus horrible, c'est enregistré. Donc là où il n'y aurait que justement des mâles, et vous avez, lui, il introduit des femmes systématiquement, hein, à chaque fois. Et alors là, on se retrouve avec des figures qui ne sont plus du tout dans la puissance, dans la tragédie. On est dans une sorte de banalité, une intimité qu'on n'a jamais, qu'on ne voit jamais chez Michel-Ange, y compris avec cette femme qui se brosse les cheveux, avec celui-ci qui a l'air totalement perdu dans ses pensées, avec des coiffures étranges. Et à chaque fois, il va introduire justement, là où dans la généalogie biblique vous aviez que des hommes, là à chaque fois vous avez des couples, et y compris ces femmes avec des enfants, dans des rapports qui sont extrêmement tendres. Là on n'est plus dans des bébés un peu incroyables, ou hors du temps, etc. Vous avez des relations qui sont pleines de tendresse et complètement vivantes. On est dans la vie, presque dans le quotidien. Ce personnage, regardez, qui écrit sur son genou avec une posture et des pantalons étranges. Ici, cette femme qui joue avec ses enfants. Hein, avec toujours cette idée du rythme, où les uns et les autres, en même temps, sont quelque part un peu seuls, avec quand même l'idée de la solitude. l'idée qu'ils sont chacun le maillon de quelque chose qui les dépasse de plus grand. Mais dans quelque... là, vraiment, on n'est plus dans la tragédie. Au contraire, on est dans l'instant, hein, on est dans le moment présent, et tout d'un coup, une sorte de repos. Comme si Michel-Ange, d'abord, au sens technique, il peut peindre de façon beaucoup plus calme, parce qu'il est face à face. Donc là, on est dans un face à face physique. Hein. Il est dans une thématique qui est beaucoup plus intime, reposée. Il est moins sous le regard, y compris du public, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui est plus discret, y compris dans la place. On va dire, l'espace dédié à ces lunettes est un espace beaucoup plus discret, puisqu'on le voit moins. Et là encore, vous avez quelque chose qui est étrange dans ceci. Alors, regardez justement hein, les postures, hein, quelqu'un qui joue avec son fils sur ses genoux, des trucs universels que l'on connaît tous, qui parlent, qui sont hors du temps cette fois-ci. On n'est plus dans les grandes échelles de grand temps, de prophètes, de Bible, de Sibylle, de tout ce qu'on veut, mais on est dans le pile l'instant présent, comme si on pouvait apprécier le moment présent, avec quand même ces regards et cette inquiétude ici, qui de temps en temps apparaît dans certains regards, hein, qui manifestent la solitude de certaines de ces figures. Alors, ici, encore une femme au berceau, la solitude de celui qui pense. Vous avez aussi des choses qui sont belles dans ces œuvres, c'est l'ombre portée, hein, parce que vous avez l'idée qu'ils sont vraiment dans la niche, et qui sont vraiment là, assis sur ces bords adossés. Et là, vous avez des figures, on va dire, justement, les figures féminines ici sont plus des espèces de caricatures qu'on a dans les Sibylles. On a des figures beaucoup plus apaisées, reposées, des sourires, un début d'une certaine joie de vivre, qui étonne en général et qu'on n'associe pas à la terribilité de Michel-Ange. Alors là, les regards, hein, c'est là où je vous dis malgré tout, vous avez quand même, justement, dans ces regards en tension, à l'expression d'une intimité aussi. Non seulement les attitudes sont intimes, mais y compris un regard en coin exprime une légère inquiétude ou une tension personnelle, hein, un rapport au monde aussi qui est vraiment spécifique. On n'est pas uniquement un objet, on a sa propre liberté, puisque la direction du regard, hein, c'est quelque chose aussi qui exprime l'intérieur, la pensée, les sentiments, les désirs, etc. Et donc, jouer sur la direction du regard, avec ses regards en coin, Michel-Ange, je veux dire, invente quasiment ça. Il invente quasiment ces regards de côté. Alors ça, c'est un grand classique. Hein. C'est un grand classique ensuite pour l'expressivité. Par exemple, vous savez tous, dans le cinéma muet, par exemple, qu'on va trouver, le grand truc, c'est les regards en coin. C'est des regards en coin, justement, parce que ça donne une tension, ça exprime ce qui ne peut pas se dire par la parole, s'exprime par le regard, justement, et au sens strict, c'est quelque chose qui sort du corps. C'est pas la parole, c'est le regard, et effectivement, avec les rides au front, les expressions individuelles, et là, vous avez tout d'un coup une individualisation, donc, qui est repérable dans beaucoup, hein, que je vois dans les postures et dans les regards. Et toujours, cette idée assez étrange et belle de deux personnes qui sont proches, qui sont liées, puis en même temps, qui ne sont pas en contact. Donc là, on sait qu'ils sont séparés, reliés par la courbe, et en même temps séparés. Hein. Donc, ils jouent aussi sur l'architecture, ça c'est le côté génial de Michel-Ange, c'est de savoir inscrire ses peintures dans un bâtiment, et en jouant du bâtiment, que ce soit sur les travées, les lunettes, etc., les éclairages, les ouvertures, les courbes, et puis là, aussi, dans ces espèces de chaînes, hein, comme c'est des chaînons qui se relient. Alors juste, ça c'est juste pour vous montrer la différence. Ça c'est après restauration, et ça c'était avant restauration. Avant restauration, alors, évidemment, ça semblait, on imagine, on les voyait encore moins, et puis et comme ça rentrait pas dans le schéma aussi du Michel-Ange puissant, eh bien c'est des œuvres qui ont été aussi longtemps négligées. Alors là, vous voyez, hein, toujours ce regard, l'âge aussi. Alors on trouve Yessé, David, Salomon, là on se rapproche un petit peu des grandes figures. Et alors rappelez-vous aussi que quand même l'idée de la généalogie, alors ça par contre c'est pas Michel-Ange qui l'invente. L'arbre de Yessé, on a vu, c'était très important dans les églises, l'idée de l'arborescence, de se relier au passé, ça c'est quelque chose qui est aussi, y compris par les corps et les individus, ça c'est quelque chose qui est important. Donc chacun en même temps joue un rôle, tout en étant un individu. Ça aussi, c'est important, c'est que dans cette généalogie, ce n'est pas juste des figures, c'est vraiment des individus. Donc en fait, vous avez avec Michel-Ange, et y compris dans cette généalogie, l'idée que chaque personne, quel qu'il soit, et alors là, homme et femme et enfant, construisent cette espèce de grand arbre, effectivement, qui aboutit jusqu'à nous, etc. Là encore, alors là, regardez, c'est une des seules fois où vous avez... Alors là, regardez le regard de cette femme, hein, qui est encore très clair, avec une sensualité, le nez, la bouche entrouverte, un côté inquiet, le profil de l'enfant, l'enfant qui semble communiquer avec l'autre, hein, derrière. Donc là aussi, un jeu superbe sur la tension et la construction en marque. Là encore, alors là aussi, c'est très beau, parce que ce jeune homme en train de lire avec une jambe allongée, la femme qui questionne son miroir avec le coude posé sur le genou, des postures là aussi, hein, qui sont là encore presque de la chambre, hein, de la pièce, de l'intime, la chambre, le livre, on médite, etc. On est dans quelque chose qui, y compris, nous parle de l'Italie, de Michel-Ange, de son époque. Hein, là, parce que les coiffures, les postures, les vêtements, les attitudes sont tellement vivants et vivantes que on est aussi, on sort de la grandeur biblique, on va dire. Et pourtant, on est dans la chapelle Sixtine. Là aussi, hein, cette femme qui endort son enfant, la tendresse, quelque chose qu'on voit très peu dans le plafond de la chapelle Sixtine, dans le jugement dernier, au contraire. Et là, on a presque l'impression que Michel-Ange, tout d'un coup, se repose, se détend en faisant ses peintures sur les côtés, qui sont, alors qu'on va lui passer, parce qu'en plus, à l'époque, d'abord, il ne voit pas ce qu'ils font. Les commanditaires, le pape ne voit rien. Donc, si vous voulez, ou alors, je crois que c'est au bout de 2 ou 3 ans, quand même, les commanditaires ont pu obtenir que Michel-Ange dévoile une partie. Et donc, Michel-Ange a dit, bon, ok, vous pouvez voir ce que j'ai fait. Et donc là, il y a une procession, le pape, les cardinaux, etc. Puis je crois que les commanditaires sont venus et ont vu ça. Ont vu le début, il y avait, je crois, 4 ou 5 travées qui étaient faites. Je dis, bon, ok, on vous laisse continuer. C'est sublime, c'est magnifique. Ah, évidemment, il y avait la force, la puissance, le côté nouveau, hein, la séduction. Mais il n'y a pas de description du détail ni de critique de l'époque. Je crois qu'avoir obtenu de Michel-Ange qu'il continue de peindre là où il avait refusé, c'était déjà prodigieux. Alors, je termine, puis on reviendra la prochaine fois. Voilà. Donc, normalement, vous avez 12 lunettes, à peu près 24 personnages, hein, autant d'hommes que de femmes, quelques enfants, et à chaque fois, ces postures fortes, puissantes, dans les drapés, dans une certaine connexion aussi, qui est assez remarquable. Alors, je vous montrerai la prochaine fois une autre petite série sur l'enfance de Jésus aussi, sur les antécédents de Jésus. Et l'idée aussi du cours, ça sera d'aller à partir de là vers la question du regard, la question du maniérisme, les émotions, les expressions, et puis aussi l'histoire un petit peu du regard dans la peinture maniériste italienne et l'influence de Michel-Ange sur certains artistes. Et puis on verra aussi la crise, le sac de Rome en 1524, avec ses conséquences directes sur Michel-Ange. Voilà, ça sera ici la prochaine fois sans doute.
Je pense.
Oui. Et donc après, normalement, je devrais retrouver la grande salle.
La grande salle.
Peux-tu envoyer le calendrier aussi?
Retourner. Thank you.